Nikos Aliagas, matinale spéciale ce matin sur Europe 1 en direct de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Pierre.
Nikos, vous êtes sur place. Tout à l'heure, vous étiez au centre d'appel du SAMU et à présent, vous êtes en immersion au cœur du service des urgences.
Oui Pierre, nous sommes aux urgences et nous continuons notre périple. Nous sommes en immersion avec Mélanie Gomez. Il se passe beaucoup de choses, hein, même pendant la nuit. Bonjour docteur Karim Tazaroult, c'est vous le patron ici, le chef de ce service.
Le chef de service, oui.
On a l'image d'un flux continu de patients qui débarquent 24 heures sur 24. Là, il est un peu tôt. Ça va commencer à bouger à partir de quelle heure ?
Alors, c'est exactement ça. D'abord, un flux continu, c'est vrai, ouvert H24, ce qui est un sujet majeur, hein, aux urgences. Vous êtes ouvert H24 avec tout un hôpital qui est derrière. Spécifiquement en termes d'activité, les flux sont entre 10h et 22h.
Ici, c'est le cœur du réacteur. Ouais. Ici, n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure. Il se présente parce qu'il est en urgence vitale ou pas seulement ?
Alors, pas seulement. La force des urgences, c'est de proposer à tous nos citoyens, H24, une solution à un problème de santé. Et je tiens à tenir ce message positif, parce que, outre les dysfonctions qu'on médiatise beaucoup, fondamentalement, quand vous avez un problème de santé, urgent ou pas, et c'est une des difficultés pour nous, c'est que vous avez un endroit où il y a de la lumière, vous pouvez venir. Un service d'urgence, c'est rien sans son hôpital, donc en fait, c'est un hôpital qui se consacre à l'urgence. C'est ça aussi, j'insiste, un service d'urgence, c'est pas isolé au milieu de nulle part.
C'est pas seulement l'endroit où on attend pendant des heures.
Bien
pour
sûr que non.
Radio, en fait.
Et de facto, c'est un baromètre ou un thermomètre
de
toutes les dysfonctions de notre système de santé.
Et de la société française aussi.
Et de la société. Et on fait face à deux défis d'adaptation.
Mélanie Gomez.
Oui, on entend souvent que les urgences sont engorgées, qu'il y a trop de monde. Est-ce qu'on vient pour rien aux urgences ? On sera renvoyé si on vient pour un petit bobo ?
Bien sûr que non. Alors, on voit de manière évidente que, de facto, depuis 30 ans, il n'y a pas que de la médecine d'urgence qui vient au sein des services d'urgence.
Vous voyez quoi comme mot en particulier ?
La moitié de nos patients relèvent de la médecine aiguë. Vous avez une douleur intense qui peut entraîner un risque vital ou fonctionnel, vous venez aux urgences, c'est normal. L'autre moitié, c'est du soin non programmé. Et là-dedans, vous avez une...
C'est quoi le soin non programmé ?
Eh ben, typiquement, ça va de « j'ai mal au dos, ça n'est pas une pathologie urgente, j'en suis sûr, mais j'ai mal au dos, j'ai besoin d'être pris en charge immédiatement ». Ça nous ramène aux problématiques d'instantanéité de cette société. Ça pourrait être fait en ville. Ah, mon fils a de la fièvre, je sais pas quoi faire et je viens. Donc, dans nos services, la moitié des patients pourraient avoir une réponse adaptée à leurs besoins dans une structure autre qu'un service d'urgence.
Avec un généraliste.
Est-ce que vous avez des violences aussi ?
Oui, bien sûr. On est le reflet de la société. Hein.
Comment vous le gérez ?
Alors, vous avez deux types de violences. Hein. La violence organisée en bande qui veut s'en prendre spécifiquement aux équipes est très rare. La plupart du temps, nous avons de l'agressivité qui est liée à une incompréhension de ce qu'est un service d'urgence. Au service d'urgence, nous accueillons tout le monde. Personne n'est renvoyé. Mais on passe tous par une infirmière d'organisatrice de l'accueil qui est une consultation spécialisée et qui va après vous filiariser. Dit autrement, quand vous avez un problème aigu, vous rentrez dans la filière hôpital. Quand vous relevez d'une consultation non programmée, on vous dira d'aller voir votre médecin généraliste. On vous a rassuré parce qu'on a fait un acte intellectuel, mais on vous demande d'aller voir le médecin généraliste ou la maison médicale de garde. Ce qui ne correspond pas forcément à l'attente des gens qui voudraient être pris dans l'heure. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est...
Ils veulent une radio, qui veulent un médicament, qui veulent quelque chose tout de suite.
Exactement. Voilà. Donc là, l'agressivité vient souvent de ça. On a un problème d'information préalable. En fait, si je vais jusqu'au bout, on a un problème d'éducation sanitaire de notre population.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On a montré par les écoles qu'on pouvait apprendre aux enfants les gestes de secours et que ça marchait. On a probablement maintenant à apprendre à nos adolescents ce qu'est la ressource sanitaire. Dit autrement, nos grands-mères, quand on avait de la fièvre il y a 30 ans, étaient capables de prendre quelques mesures et d'attendre 24-48 heures, exactement. Là maintenant, la moindre fièvre sans critère de gravité, ni même angoisse, nécessite une consultation aux urgences.
Et parfois parce qu'ils ne trouvent pas de médecin en ville aussi.
Écoutez, on a un problème d'adaptation de notre système de santé. Je ne dirais pas qu'on manque de généralistes, je dirais qu'il va falloir repenser le modèle avec le non programmé et une population qui vieillit, qui a besoin de prévention et qui est isolée. Donc plus que demander plus de médecins, ce qu'il faut c'est repenser complètement le modèle et réattribuer à chacun des missions.
Alors à côté de la salle d'attente, je la vois, elle vient d'arriver, la directrice de l'hôpital, Valérie Durand-Roche, bonjour.
Bonjour.
À quel moment vous êtes sous tension ? Il y a un terme très spécifique, je crois, pendant les épidémies. Vous l'étiez encore il y a quelques semaines ?
Tout à fait. L'hôpital sous tension, c'est à un moment donné une inadéquation entre les venues aux urgences, les moyens qui sont présents aux urgences et le nombre de lits d'aval. Donc c'est ces moments-là qui sont en général particuliers sur les périodes de grippe, d'accord, sur des périodes parfois de canicule aussi, mais qui correspondent à des périodes d'épidémie en général.
Et par exemple, là, on sort d'une épidémie de grippe.
On sort d'une.
Vous l'avez géré comment ?
Eh bien, on a un plan hôpital sous tension qui est en général déployé dans les hôpitaux français, qui met en œuvre des réponses graduées pour faire face justement à ces afflux de patients qui viennent soit avec un besoin d'hospitalisation, soit avec qu'une simple consultation.
Mais vous isolez, vous mettez des quarantaines, comment ça se passe?
Non, pas tout à fait, c'est plutôt répondre au bon moment avec des renforts de moyens. Alors, on a des processus de rappel, mais aussi on essaye de prévoir avec un plan en amont des périodes où on va avoir plus d'effectifs, que l'on va aussi payer en plus, et aussi d'avoir un volume de lits d'aval supérieur par rapport à notre fonctionnement normal.
Est-ce que vous préparez aussi à des scénarios d'attentats, par exemple?
Alors ça, c'est autre chose. Oui. C'est ce qu'on appelle les plans blancs, qui sont les dispositifs en parallèle de ce qui est déclenché au niveau de la préfecture, d'accord, qui sont le moyen en intra-hospitalier de répondre à la demande d'un afflux de victimes.
En très peu de temps.
En très peu de temps, puisque nous devons, selon les objectifs, répondre en moins de 30 minutes pour accueillir les urgences qu'on appelle absolues et aussi accueillir les urgences relatives qui doivent être aussi triées à l'entrée de l'hôpital après un pré-tri en extra-hospitalier qui est effectué par le SAMU ou les pompiers dans le cadre des dispositifs présents.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos collaboratrices ou vos collaborateurs? Je sais pas, on sort quasiment d'une vacation de nuit. Ça se termine à quelle heure? Vers 8h, là, ils vont rentrer chez eux.
Pour les médecins, la relève va être à 8h, avec la transmission de la garde, et donc un staff entre les médecins qui quittent la garde et les médecins qui arrivent.
Où sommes-nous, là, précisément?
Là, vous êtes dans l'unité d'hospitalisation courte durée.
Ceux 20 qui sont lits. Là, ils ont travaillé 12 heures au moins.
Exactement.
Alors, je vois des jeunes gens qui travaillent visiblement à côté de vous, professeur. Alors, bonjour, vous appelez comment?
Siri Fontaine.
Vous avez
28 ans.
Vous êtes docteur?
Oui.
Je vois que vous avez un stéthoscope autour de autour du cou. Vous venez d'arriver ou vous terminez votre vacation?
Non, je finis là. Je finis.
Vous étiez là depuis quelle heure?
18h30 hier.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit?
Eh bien, plein de patients sont arrivés, dont une des dernières qui a 92 ans, et en fait, voilà, qui est arrivée sur un mode de vomissement, une détresse respiratoire. Bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on a pu la stabiliser. Mais voilà, toute la nuit, ça a été un petit peu comme ça. Des doutes diagnostiques initialement, et puis avec.
Combien de patients vous avez vu cette nuit et de tout type, j'imagine?
Bah, honnêtement, je ne sais pas trop. En général, c'est plutôt entre plutôt une quinzaine, 20, ça dépend, des fois jusqu'à 30.
C'est toujours l'imprévu, en fait.
Oui, exactement.
Dans votre métier, vous ne pouvez absolument rien prévoir.
Non.
Uniquement l'horaire, en fait.
L'horaire de début,
encore,
de fin. Et,
pas de fin, et celui du début, oui, sûr. Et ça peut traîner un peu plus après.
Ça peut traîner un peu plus selon ce qu'il nous reste à faire et selon ce qu'on veut finir, oui.
Vous êtes très jeune, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier?
Eh bien, pour la diversité et ouais, un peu pour l'imprévu aussi.
Combien d'années d'études?
Ben là, 11, 10.
Vous avez des études? Et vous gagnez combien si c'est pas indiscret?
Ah ben ça c'est plutôt indiscret.
C'est plutôt indiscret.
Mais oui, voilà, donc on a une base de salaire.
C'est parce
et puis
que
après,
vous
c'est,
souhaitiez, c'est... j'imagine, c'est, ça commence en bas de... Ça commence en bas du tableau.
Moi, j'interviens en tant que chef de service. Les salaires d'assistance, c'est moins de 2 000 euros, 1 008, et les gardes sont payés 250 euros brut, la garde de 12 heures. Donc, vous voyez que les salaires, c'est indiscret, mais dans le sens gênant. Le différentiel est terrible, en fait. Ça, c'est un problème d'attractivité majeur en début de carrière.
C'est un sacerdoce, j'imagine. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Au-delà de l'image du oui, on sauve des vies, on est content. La réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend sur
l'être humain? C'est quand même le contact. Malgré des conditions quand même de travail qui sont pas forcément faciles, mais c'est vrai que c'est le contact avec les équipes, les patients et l'humain. Et l'humain, ouais. Mais le truc, c'est qu'à côté de ça, ben il y a tout ce qui n'est pas humain qui des fois nous empêche de profiter justement de notre métier et de le faire correctement, quoi.
Donc pour travailler dans un hôpital, dans un centre hospitalier, il faut être passionné.
Plutôt.
Sinon,
ouais.
Ça marche pas.
Ça marche pas. Il faut être passionné et patient.
Merci docteur. Est-ce qu'il y a assez de lits? Combien de temps on peut rester aux urgences?
Alors, vous posez deux questions en une, là.
Alors, on commence par laquelle?
La durée moyenne de séjour aux urgences est un critère qui ne nous satisfait pas. Vous venez parce que vous avez deux boutons sur la langue, et ça arrive. Objectivement, vous aurez un rendez-vous de dermato en ville à 15 jours. Je vois pas pourquoi ces patients se plaignent d'attendre 4 heures aux urgences. D'ailleurs, ils n'ont pas à être pris aux urgences. Ça, c'est le premier sujet. En revanche, vous avez un infarctus, vous devez être pris très vite, en appelant le SAMU ou en venant. Donc, vous voyez que la durée moyenne de séjour, pour nous, n'est pas le bon critère. Après, vous posez le problème du nombre de lits et de l'adéquation entre les lits qu'on a et le profil de patient. Alors là, vous touchez du doigt une sensibilité, c'est que dans un CHU, par exemple, nos services sont tous hyper spécialisés parce que c'est ce qu'on nous demande, mais la pathologie qu'on reçoit aux urgences est très régulièrement non spécialisée, polypathologique, âgée, et ne répond pas stricto sensu à la spécialisation d'un lit.
Le vieillissement de la population, vous le sentez?
Exactement.
Ici.
En fait, ce vieillissement de la population est en train de nous ramener à la nécessité d'avoir des lits de médecine polyvalente, ce qu'on avait naguère. Est-ce qu'avec le développement de la médecine, c'est de plus en plus réduit pour la surspécialité? Donc, vous voyez, en fait, tout est une histoire de balancier.
C'est quoi ces patients? Ce sont des personnes âgées qui ont personne qui s'occupe de chez eux? Ils arrivent ici, pourquoi? Parce qu'un traitement ne va pas? Parce qu'ils sont tombés?
Non, d'abord, vous avez les maladies chroniques qui s'acutisent et qui dégénèrent, le vieillissement. Et effectivement, dans notre hôpital spécifiquement, le milieu socio-économique environnemental génère de l'isolement. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes pathologies aux urgences quand vous êtes à Versailles ou à Lyon 8e, très manifestement.
Il faut être aussi un peu psychologue, professeur Tazahort.
Vous voyez, les qualités d'urgentiste, c'est l'empathie, c'est la disponibilité, la plasticité intellectuelle et technique, et en même temps, la vision précise des circuits patients. Donc c'est pour ça qu'un urgentiste, quand vous lui demandez comment marche la santé sur le territoire, il pourra vous le dire, parce qu'in fine, c'est le dernier maillon.
Quand les urgences vont mal, tout va mal.
Oui.
Dans l'hôpital.
Oui. Alors, là encore, message positif pour vos auditeurs, hein. Pas de sinistrose. En France, on a quand même la chance de pouvoir être géré correctement pour les pathologies aiguës. Notre problème en ce moment est l'accès aux soins non programmés, j'insiste. Donc pas de sinistrose.
Les gens viennent aussi ici parce que c'est gratuit? Ou ils ont l'impression que c'est gratuit?
Oui, alors ça, on a un énorme problème de sensation de gratuité des soins. En fait, il y a une dématérialisation de ce que coûte le soin et ce que le citoyen perçoit. Et ça, ça nous pose problème. Effectivement, quand il faut payer, les gens sont surpris.
Voilà, merci. Merci Nikos, merci à toutes les équipes du CHU de Lyon. C'est aussi, c'est ça, le sens de ces matinales que nous faisons, ces matinales spéciales avec Europe 1, avec toutes les équipes. Ensemble, on se déplace pour voir, pour se faire expliquer les métiers, les savoir-faire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec Nikos Aliagas.
Et continuez à réagir sur Twitter en nous envoyant vos messages, hashtag Europe 1. Europe.